Même donner une idée qui m'était venue, c'est que demain, bah, si vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue et que vous le relevez, on pourra vous taxer. On pourra vous imposer de déclarer, de payer des taxes et des machins là-dessus. C'est-à-dire que toute l'aide deviendrait interdite parce que forcément, il n'y a pas d'argent à gagner derrière.
Ah, j'ai peur de pas ces aspects-là.
Voilà. Donc, ça fait, voilà, on pourrait en arriver là si on fait pas très attention. Donc,
Ah bon?
Non, mais c'est vrai que avant, on pouvait donner un poulet, voilà, je veux dire. Avant, on échangeait entre nous, voilà, c'est tout ce qui serait échange, troc.
Mm-mm. Ça fait partie, effectivement, de mes axes d'analyse, mais c'est pour le prochain, donc il faudra me réinviter d'ici 2 ou 3 ans. Donc, tout sur le volet économique, on a parlé à l'instant d'économie circulaire, c'est un de mes axes, du moins là, il est clairement évoqué dans le livre, donc « Communisme de la Révolution ». Tout ce qui est partage ou ça fait partie de mes axes de réflexion dans le prochain volet.
Parce ou que sur les éco-villages. C'est-à-dire que les gens puissent vivre sans avoir besoin de payer à Areva, à EDF, à tous ces géants de
absolument,
au nucléaire. C'est-à-dire que les gens deviennent autonomes, ça c'est vraiment, ça serait vraiment l'avenir.
Oui, puis en aparté tout à l'heure, on évoquait Serge Latouche. Il travaille pas mal sur...
Ça fait des années qu'il travaille là-dessus.
Ouais, donc, c'est fait aussi un des auteurs que je lis pour le prochain volet.
Donc, Serge Latouche, la décroissance.
Voilà. Donc, après, il y a à boire et à manger, mais c'est une réflexion tout à fait intéressante et je pars aussi de ses travaux, comme ceux de donc Jean-Claude Lévy. Alors, Lévy, c'est sûr. Jean-Claude, je crois que c'est...
Ouais, je peux chercher. Hein.
Vous allez voir. Mais il y en a beaucoup, hein, des Lévy qui écrivent, mais je crois que c'est Jean-Claude. Hein, alors,
parmi... c'est quoi le titre?
Économie circulaire. Je pense qu'il doit être tout seul. Hein.
On tape économie circulaire, on va savoir le prénom.
Et donc, je pense que ça va revenir de plus en plus dans les réflexions à venir, parce que ça devient... Je pense que c'est une des clés. Hein. Il y en a plusieurs, mais d'un point de vue économique, c'est une des clés.
Alors, économie circulaire, Marc, Arthur... Non, c'est une fondation.
Ou on peut faire Jean-Claude Lévy, il était publié aux éditions...
C'est le VY. Jean-Claude, c'est ça.
Ouais, donc je me
suis
trompé.
C'est Jean-Claude Lévy, économie circulaire.
Ça a dû paraître en 2009, je crois, de mémoire. Excellent ouvrage, et justement, c'est l'économie circulaire, et surtout par rapport à l'expérience chinoise. Comme ça, on aura appris. Et j'étais très surpris que justement, la Chine...
Donc ça serait vers un monde sans déchets.
Du moins, ça, c'est l'objectif, après. Mais c'est effectivement recycler au maximum tout ce qui peut l'être. Et notamment, alors c'est pas que nous en tant que consommateurs.
On va y arriver, on recycle. On va manquer de matière première, on va vraiment être obligé de recycler tout pour récupérer du métal, récupérer de la ferraille, récupérer du cuivre, il y en a qui vont même le voler.
Voilà, et avant, le recyclage, c'est quand on dit, tiens, ce stylo en plastique, j'en ai plus besoin, je le sépare, je prends le plastique et autres. Mais avant le recyclage, c'est la réutilisation. Est-ce que je peux pas le réutiliser, par exemple, en mettant une nouvelle cartouche? J'ai pas besoin de racheter tout un stylo, mais je mets une cartouche et il va se remettre à marcher.
Ils ont déjà arrêté les bouteilles plastiques et puis nous remettent à l'ancienne avec les bouteilles en verre.
Ben oui, mais les bouteilles en verre avec les consignes et tout ça, dans certains pays, il faut encore des consignes.
Ben oui, mais chez nous, non.
Oui, mais c'est plutôt malin, je trouve. En plus, c'est du verre. On a de plus en plus de doutes sur le plastique. Donc, quand je vous dis du verre, c'est sur les bouteilles.
Et on paye la bouteille à chaque fois.
C'est sur les bouteilles de bière. Mais.
C'est pas que. Je sais pas, dans les grands hôtels, ils ont encore des bouteilles d'eau minérale en verre.
Après, donc il y a pas mal de pistes, mais c'est vrai que le volet économique n'est pas abordé pour le coup de façon détaillée dans mon roman, en fait. Qui reste quand même un roman. Hein, donc on peut peut-être le rappeler à nos nouveaux auditeurs. Donc, Omnis ou la Révolution, donc, paru aux éditions Eliomir.
H-E-L-I-O, comme Helios. Le soleil, Mir.
M-I-R.
Comme la station Mir.
Voilà, et qui veut dire. Mais vous avez raison, Mir, c'est une racine slave qui veut dire le monde. Donc, une racine grecque, Helios. Donc, sans le S, Mir, M-I-R, donc le soleil du monde. Donc, ça, c'est l'éditeur. Et donc, comme je le disais, ça reste avant tout un roman, et donc c'est la conquête du pouvoir par le héros Omnis, c'est le prénom du héros. Et donc, rebondissement, coup de théâtre qui précède justement la mise en place d'un nouveau système politique. Voilà, résumé en 2 ou 3 mots, un peu le sujet du livre. Effectivement, après cette révolution, cette conquête de pouvoir, il y a pas mal de, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, il y a pas mal de petits clins d'œil à la Révolution française. Parce que la Révolution française, il y a eu de bonnes choses et en même temps des périodes assez noires, et on peut vite basculer dans une révolution.
Mais le problème, c'est que ça ne sera pas une révolution française.
Oui, mais en fait, quand je fais des références, c'est surtout... Comment
voulez-vous que les gens s'insurgent alors que finalement, ils ne se parlent pas
Mais comme je l'ai expliqué, là, c'est un roman, mais une révolution demain, ce n'est pas forcément des gens qui vont dans la rue, qui cassent tout. C'est peut-être homme politique qui va réussir à anticiper le mouvement. En fait, si j'écris cet ouvrage, c'est justement pour pas qu'on y arrive.
Pour donner des idées à des hommes politiques
Oui, non, pour leur dire, attention, on est dans une période assez tendue et ça peut vite basculer dans une direction. Et s'il n'y a pas déjà... déjà, si on n'anticipe pas assez les problèmes... Bon, là, on est dans une période où on anticipe le problème, on sait qu'il y aura des problèmes. Après, c'est quels sont les moyens pour pouvoir les éviter, en fait. Et c'est là qu'effectivement, la situation n'est pas facile, en fait. Et il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, oui, l'environnement, avec nos technologies, on arrivera à trouver. Et là, j'aimerais citer un autre auteur qui s'appelle Jared Diamond.
Comment ça s'écrit, YK ?
D-I-A-M-O-N-D. Alors Jared, non, c'est J-A, c'est Jared, donc c'est un auteur américain qui était biologiste et qui a écrit Effondrement. Effondrement, c'est un pavé de 800 pages. Alors, je viens de l'acheter il y a une dizaine de jours, mais en fait, il rejoint tout à fait, du moins il m'a précédé, mais il rejoint pas mal, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'imaginer, la plupart des civilisations qui sont...
Effondrement, c'est collapse.
Voilà, ça c'est en anglais. Hein. Mmh. Donc effondrement.
Et le troisième chimpanzé.
Ouais, et effondrement, ça collapse.
Le troisième chimpanzé, il va ressortir dans très peu de temps, là. Mmh. Parce que je l'ai vu passer, moi, en dossier de presse.
Ouais.
Donc c'est un monsieur qui est né en 1937 à Boston, qui a une formation à l'université de Cambridge, à Harvard College, à l'université d'Harvard. Qui a déjà reçu le prix Marc Arthur.
Oui, c'est quelqu'un qui est, du moins dans le milieu, qui est assez reconnu. Et en fait, pourquoi je le cite, c'est qu'en fait...
Alors, le troisième chimpanzé, c'est quoi ça? Parce que je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps.
Moi, peut-être, il en reparle, mais en tout cas, moi, je voulais juste parler d'effondrement. Et dans Effondrement, l'une des thèses, c'est 800 pages, et il va très dans le détail, c'est très bien argumenté, mais ce qu'il dit, c'est que beaucoup de civilisations se sont effondrées, littéralement, parce qu'elles n'ont pas su gérer les problématiques environnementales qui leur arrivaient et dont ils étaient souvent responsables. C'est-à-dire, par exemple, dans l'île de Pâques, ils citent l'exemple de l'île de Pâques, c'est qu'ils ont coupé...
Ils ont déforesté.
Voilà, ils ont coupé leur...
Ils ont mis des bestiaux qui n'avaient pas rien à faire là.
Voilà, ils se servaient du bois et ils ont tout replanté, en fait.
Et puis ils ont mis des moutons, ils ont amené des moutons, je ne sais pas ce qu'ils ont amené...
Alors, les premiers habitants, je...
Non, mais ceux qui sont venus les coloniser, ils ont commencé
à...
Oui,
mais c'était bien avant, c'est-à-dire la civilisation qui a créé, vous savez, ces belles statues...
Oui.
Voilà, et ben cette civilisation, elle s'est effondrée littéralement du fait de la déforestation. Ils n'ont pas vu que leur impact avait... ils se sont littéralement... Donc, en modifiant son environnement, on peut créer, par exemple, là, en l'occurrence, il y a dû avoir des sécheresses, la famine...
Puis il y avait des bestiaux, je ne sais pas si les Portugais, où ils ont commencé à amener des bestiaux, ou des biques, ou je ne sais quoi,
voilà,
qui se sont repeuplés...
Voilà, exactement. En fait, ce qu'il dit, c'est très intéressant dans sa réflexion, c'est que, en fait, quand on joue sur son environnement, sans s'en rendre compte, là, nous, on s'en rend compte, c'est que déjà, on n'arrive pas à l'anticiper. C'est-à-dire, nos civilisations arrivent à anticiper, mais c'est-à-dire, la première cause d'échec, c'est, en fait, on ne sait pas qu'on va modifier l'environnement de façon telle que ça va causer des dégâts, mais incommensurables. L'exemple qu'il donne dans ce manque d'anticipation, c'est le fait de dire, à certains moments, les colons australiens arrivent en Australie et puis ils disent tiens, on va essayer de mettre des lapins et des renards. Et en fait, ils n'avaient pas de prédateurs et ils ont fait des dégâts considérables, des milliards de dégâts, parce que les lapins mangeaient la culture et les renards mangeaient les reptiles et les espèces. Et pour s'en débarrasser, ils ont dépensé encore beaucoup de milliards et ils ont toujours le problème. En fait, donc là, premier argument, manque d'anticipation. Après, vous pouvez avoir des signaux perceptibles. Mais du moins qui sont perceptibles de façon factuelle, mais dont vous ne vous apercevez pas. Et parfois, vous n'avez pas les technologies pour vous en apercevoir. Par exemple, un sol qui s'appauvrit en minéraux et qui fait que d'ici quelques années, il y aura soit de l'érosion ou soit autre. Nos anciens, c'était difficile à se dire, en fait, si je continue dans cette voie-là, ça va être une catastrophe. Donc, il peut y avoir des signaux. comme actuellement, regardez, vous avez des signaux, vraisemblablement les températures augmentent quand même depuis 20 ou 30 ans. C'est des signaux perceptibles. Vous, si on ne vous le dit pas, s'il n'y a pas les climatologues qui vous disent « Ah ben, on a mesuré la température depuis 30 ans », tout nous montre qu'elle augmente. Mais vous, à titre individuel, vous pouvez dire « Ok, mais il a fait chaud l'été dernier, mais là, cet hiver, il a fait froid ». Oui, c'est un peu augmenté, mais j'en suis pas sûr. Donc, vous avez des doutes. Mais là,
on sait très bien que le réchauffement climatique, ça donne des hivers froids.
Ça dépend des zones.
En général, ça va quand même refroidir aussi.
Voilà. Après, la troisième étape, c'est que vous les percevez, mais vous échouez dans les tentatives de résolution. En fait, vous dites, effectivement, par exemple, il faudrait peut-être... Alors, imaginez, vous avez une forêt, vous vous rendez compte que si vous coupez encore plus d'arbres... Alors ça, c'est un exemple, c'est pas le sien, c'est le mien. Vous avez coupé les trois quarts de la forêt, si vous coupez encore un quart, vous sentez qu'après, il y aura une période de sécheresse parce qu'il n'y aura plus assez de pluie qui va tomber sur la forêt. Donc, vous dites, il faut arrêter... sans doute de couper, donc faisons des lois, mais vous n'arrivez pas à faire appliquer votre loi, par exemple, de dire qu'il faut arrêter de couper les arbres. Et on continue à couper les arbres, donc c'est un échec. Et après, vous dites... la quatrième étape, c'est de vous dire, on a compris qu'il fallait replanter des arbres, allons-y, on replante des arbres, ça c'est encore un échec, c'est encore un exemple tiré de moi, mais ça suit l'idée qu'il propose. Bon, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on va résoudre le problème, on va replanter des arbres, mais pas de bol, il est déjà trop tard. La pluie ne tombe plus. Donc, les arbres ne peuvent pas pousser. Voilà les quatre grands schémas qui conduisent à un échec. Et clairement, et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, c'est qu'ils montrent avec des exemples très, 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 très précis, comme quoi l'homme, les Incas, c'était pareil. Ils ont influencé leur environnement, notamment à la croissance démographique, plus tout leur environnement pour la culture et autres, pour se nourrir. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus assez de forêt qui attirait la pluie. Et on est rentré en période de sécheresse. Et ça a été l'une des causes de l'effondrement de cette civilisation maya. Et ça s'appelle, en fait, il utilise le terme d'écocide, c'est-à-dire le fait de entre guillemets, tuer son environnement et qu'il y ait une influence après sur votre civilisation propre. Voilà, c'est pour ça que je cite ça, parce que peut-être, on devrait peut-être s'inspirer de ces expériences. C'est vrai, quand on étudie la fin des Mayas, on a l'impression qu'il y a un petit côté mystérieux, qu'est-ce qui a dû se passer. Alors que maintenant, les recherches montrent que tout porte à croire.
C'est l'environnement.
Voilà, et c'est l'homme qui agit sur son environnement, en fait. C'est de façon directe ou indirecte. Alors parfois, il y a des catastrophes naturelles. Il n'aborde pas tellement ces aspects-là, mais s'il y a une catastrophe naturelle, mais parfois, si vous coupez les arbres d'une forêt, après, vous avez une période de sécheresse. Et donc, c'est voilà. Donc, il méritait d'être cité. C'est tout à fait intéressant par rapport à nos réflexions.
D'accord. Donc, est-ce que vous voulez appeler le 01 34 12 12 22? Je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que les gens, ou ils dorment, ou ils n'ont pas envie d'appeler, donc c'est pas grave.
On va peut-être les réveiller.
Oui, faut leur mettre de la musique pour les réveiller. Donc. Alors, est-ce qu'il y a une musique que vous... qu'est-ce que vous aimez bien comme musique?
Oh, moi, j'aime bien la classique.
Qu'est-ce que vous aimez?
On va mettre Beethoven, la 9e symphonie. On va mettre le 4e mouvement de la 9e symphonie parce qu'elle est très longue.
Je ne vais pas vous trouver le 4e mouvement.
Non, mettez ce que vous voulez.
Ce que je vais trouver. C'est la...
Ah oui, si, pour réveiller nos éditeurs, on va mettre la 5e symphonie, l'ouverture. Donc ça va. On peut même peut-être 2 ou 3 minutes.
Je ne sais pas si je vais. Je la cherche, je ne suis pas prête.
Puis en plus, là, comme je ne sais pas chanter, je ne peux pas chanter pour prendre le relais.
Dommage.
Vous voulez que je vous lise un passage en attendant?
Vas-y.
Bon, allez, je lis un passage. Lequel? Il faut qu'il soit court ou on fait... Bon, là. Donc, c'est le début du roman, hein, donc Omnis ou la Révolution, et à un certain moment, le héros doit faire un discours capital à l'Assemblée nationale. Le héros est un député dans un parti minoritaire qui est sur la sellette. Ce sont les sibellistes. Qui s'oppose à un mouvement majoritaire, les néo-plébéiens. Et ils sont en France du Nord, car la France s'est scindée en deux. Au sud, c'est un gouvernement qui siège à Vichy et qui correspond plus à la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire des mouvements classiques de droite et de gauche. Et au Nord, il y a des révolutionnaires qui se disputent le pouvoir. Et Omnis cherche, par tous les moyens, à faire entendre raison à la pagaille qui commence à naître. Donc, page 12. Omnis, impérial, souriant, leva et baissa calmement les mains plusieurs fois pour les inciter à faire silence. Il avait certes de la prestance. Malgré cela, les huées se poursuivaient. « mes chers amis, ouh, ouh, camarades, je ne vous entends pas distinctement. Ouh, ouh, camarades citoyens, prenez la parole les uns après les autres afin que je puisse vous écouter avec intérêt. » Pria-t-il avec un regard sincère et un sourire imperceptiblement enjôleur. Le silence se fit peu à peu. « Merci, merci. Beaucoup de votre attention. » De prime abord, mon allocution portera, encore et toujours, sur l'état catastrophique de notre économie et de nos finances publiques dans le contexte de la crise écologique que nous traversons, la plus grave qui ait jamais été. Ensuite, je traiterai des solutions qu'il convient d'apporter urgemment. Enfin, je reviendrai sur la grave détérioration de la concorde civile en France et en Europe depuis une semaine. Pourquoi ces focalisations, ces obsessions ? Parce que rien de grand ne pourra être espéré, parce qu'aucune paix durable ne pourra être retrouvée, parce qu'aucune révolution si belle dans notre pays a tant besoin ne pourra être entreprise sans le rétablissement immédiat de saines finances publiques. Je ne le répéterai jamais assez, il faut vaincre cette déflagration économique sans commune mesure. Fléau mondial qui sévit depuis tant d'années. Fléau qui n'a que trop duré. Les sibellistes applaudirent longuement. Je ne vous apprendrai pas que plus aucun État ni banque ne veulent nous prêter de l'argent, combien même ils le pourraient. Je ne vous apprendrai pas que la fuite des capitaux s'amplifie, que le système financier poursuit inexorablement son écroulement. Je ne vous apprendrai pas que les milliers de milliards de dettes que nous ont léguées l'ensemble des générations depuis la fin du XXe siècle nous plongent un peu plus dans l'abîme. Je vous le dis franchement, il n'y a plus que deux choix possibles. Soit se déclarer banqueroutier. Et là, trois petits points, il est interrompu, il y a un vif débat qui commence à... Donc ce passage, il est assez symbolique, il révèle un peu le... Donc il est au début, donc dans le premier chapitre, et il pose un peu, effectivement, toute la problématique, comme on l'a vu plusieurs fois, sur l'endettement du pays, la crise économique. Et...
Soit être banqueroutier, soit...
Alors, soit appliquer en fait un. Alors, je vais aller très vite. Soit appliquer un. Alors, donc là, il y a un débat qui s'échange avant qu'il puisse parler le deuxième. C'est appliquer un certain nombre de réformes sur le plan économique. Il veut les exposer. Au moment où il les expose, il y a une espèce de pugilat qui commence à naître au sein de l'Assemblée et il n'a pas le temps justement d'exposer ces réformes. Et c'est là qu'après, il y a. Alors, justement, et le roman part de là. C'est qu'après, il est obligé de partir et aller à une réunion. Et il y a une tentative d'assassinat sur le héros. C'est-à-dire qu'on essaye de s'en débarrasser parce qu'il commence à être un peu, bien qu'il soit minoritaire et dans l'opposition, il est quand même de plus en plus populaire. Et voilà, donc on essaye et tout repose sur, c'est ça l'élément déclencheur qui fait qu'il faut accélérer les choses pour reprendre le contrôle de la situation.
Thank you. Thank you.
J'adore les blancs. Ah, il y a quelqu'un qui appelle. Ah, bah non, il y avait... ah oui, il y a quelqu'un qui appelle. Non, mais je ne vois pas. Alors, ça sonne là-bas, mais ça ne sonne pas de mon côté. Ça, c'est très spécial. Je ne sais pas comment faire. Parce que je vois que ça appelle, ça a appelé là-bas, mais je ne savais pas de l'autre côté. Alors, vous recommencez. Parce que je ne sais pas, j'ai un problème de téléphone, peut-être ce soir. Parce qu'il y a des voyants qui s'allument d'un côté et pas sur le standard. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous récupérer. J'ai vu qu'il y avait des appels. Et en même temps, je ne pouvais pas les récupérer. Alors, bah, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'appels cette nuit. Parce que je suis désolée, on a des. C'est très bien fait. Parce qu'on nous a mis des. Comment on appelle ça?
Des voyants.
Des voyants, des gros voyants qui font qu'on voit qu'il y a des gens qui appellent.
Il faut les regarder en fait.
C'est ça. Non, mais on les voit parce que ça clignote, donc on est obligé de les voir. Mais malheureusement, sur le standard là-bas, je ne peux pas vous récupérer parce que ça.
Il y a un bouton rouge.
Oui, non, mais le bouton rouge, c'est pas celui-là. Bon, ben, bah, rappelez le 01 34 12 12 22 et venez nous retrouver les 4h26 sur l'antenne d'IDFM. Sur le 98 de la bande FM. Il y a le carnaval de Paris la semaine prochaine. Pour ceux qui ont envie de se déguiser, vous connaissez ça?
Oui.
Vous y êtes allé une fois?
Non.
Et vous n'avez pas envie d'y aller?
Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais si je devais me déguiser, c'est peut-être la question.
Carnaval de Paris, je crois que c'est dimanche proche. Enfin, pas dimanche là, le dimanche d'après. Et c'est amusant. Oh, on peut quand même penser à s'amuser. Non, Omni, c'est la révolution, carnaval de Paris. Alors, ça va se faire quand? 11e édition du carnaval tropical de Paris. Non, pas le tropical, celui de l'hiver. Dimanche 10 février, hein. Donc, 16e cortège du carnaval de Paris, c'est bien. Donc, ceux que ça intéresse, c'est bah, vous chercher. Et puis, non, il faut donner des bonnes nouvelles aussi. Carnaval, c'est bien le carnaval.
Oui.
Non?
Oui.
Il faut vous déguiser en princesse, je crois, cette année, ou en reine. Il faut vous déguiser en reine.
En ce qui me concerne.
On est en pleine révolution. Faites attention à vos têtes, mesdames.
Ah, oui. Non, en prince, ça sera mieux.
Non, mais je crois que j'avais lu qu'il fallait se déguiser en reine cette année. C'est marrant.
Oui. Ou en palatin, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a le palatin. Qu'est-ce que c'est que ce palatinat?
En fait, comme il y a
dans votre livre, c'est quoi le palatinat?
Comme il y a un nouveau système politique qui se met en place, il y a un nouveau régime. Et en fait, c'est ni une république, c'est ni une monarchie.
Ça a déjà existé, ça.
Voilà, c'est pour ça. Donc,
quelque part.
C'est une... Oui, effectivement. Et en fait, il y a une récupération d'un mot qui est déjà utilisé, du moins à travers l'histoire. C'est que palatin, ça pouvait signifier aussi les gouverneurs en Pologne. Et il y a eu aussi les lecteurs palatins. C'était du côté de l'Allemagne. Et en fait, Omnis est un constitutionnaliste brillant, récupère ce terme pour créer un nouveau concept. C'est-à-dire qu'en fait, le palatin, c'est à la fois un chef d'État, donc d'un État européen, première chose, qui, comme la définition de gouverneur, se mettra sous la responsabilité d'un grand palatin qui sera le chef de l'État de tous les États européens, en fait. L'un des axes de lecture aussi de ce roman, c'est qu'en fait, il faut que l'Europe politique se fasse et qu'on ne peut plus partir dans tous les sens, compte tenu des enjeux... écologique, budgétaire, militaire. Donc ce grand palatin, il est élu par chacun des palatins de chaque pays européen, en fait. Alors, en proportion.
C'est un peu ce qu'on va avoir, hein.
Ben, je ne sais pas.
On est bien parti, moi, je pense.
Donc, voilà, en fait. Et en fait, il fallait absolument. Et donc, le régime, c'est le palatinat. En fait, c'est le premier palatinat. Parce que ce qui se passe, en fait, dans cet avenir proche pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est qu'en fait, il y a une grande faillite du monde d'avant. Le monde d'avant, c'est le nôtre, c'est-à-dire qui est considéré à tort ou à raison, en tout cas le roman prend le parti, comme responsable de ce climat insurrectionnel, de ce désordre, de cette faillite morale, budgétaire, intellectuelle. Et en fait, il y a une rupture totale sur tous les domaines, et même la République passe à la trappe, c'est-à-dire en tant que concept. Le mot, après, effectivement, le palatin est élu démocratiquement. Alors ça, c'est la démocratie encore Et en fait, le Palatin gouverne pendant 8 ans. Et il est rééligible sous certaines conditions qui sont quasiment impossibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plus de 2 années de déficit pendant les 8 ans. Donc il faut aussi, c'est une obligation de résultat. Et il ne peut pas faire campagne à sa propre succession. Donc ce qui limite le champ des possibles pour se faire élire, en fait. Et sous-entendu, le régime politique qui se met en place a pour constitution un élément essentiel, c'est la règle d'or ou le respect des équilibres budgétaires. Voilà les grands axes. C'est le Palatin.
Quelle différence entre le Palatinat et une fédération ?
Une fédération ? Non, le Palatinat, c'est en fait une fédération. Un État fédéral, vous voulez dire ? En fait, on se rapprocherait d'un État fédéral, mais en fait, il y a une rupture vraiment par rapport au passé, et même les mots, on fait fi des mots du passé. Parce que vous, quand vous voyez qu'un Palatin peut se faire élire à 8 ans, il y a un système quasiment démocratique. Simplement, on se retrouve dans une configuration où, par exemple, Omnis deviendra Omnis premier, en fait.
C'est ça qui m'embête, c'est que finalement, vous lui faites un... C'est comme si c'était un intervenu au moment des rois.
Il a
un mariage somptueux. Il se fait introniser Omnis premier.
Oui, mais ça, c'est après, c'est une personne. Il faut le lire très attentivement parce que ce qui est dit derrière, c'est... Ah oui, pardon. Il faut lire très, très attentivement parce que c'est assez subtil. Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, on pourrait croire ce que vous venez de dire, et ça peut être une critique, mais il faut lire entre les lignes, du moins, c'est assez explicite, c'est que Omnis premier, c'est un peu, il faut plutôt voir un peu ce qui fait du côté de la religion chrétienne qui existe depuis 2000 ans. Vous avez des papes qui se succèdent, et c'est l'un des systèmes, c'est un système religieux, l'Église, mais bon, d'un point de vue théologique, ok, mais les papes ont survécu pendant, peut-être pas, ils n'ont pas tout de suite été l'élection des papes, mais c'est un système qui est pérenne depuis plusieurs centaines d'années. Et en fait, ce que veut mettre en place Omnis, c'est qu'indépendamment des hommes, la constitution et le régime permettent de circonscrire tout excès qu'il y a pu avoir dans les anciennes républiques, notamment le non-respect des générations futures d'un point de vue budgétaire, mais aussi écologique. Donc,
il devrait y avoir un ministère des générations futures.
En l'occurrence, là, il y a un ministère de l'environnement. Il y a une chancelière. Alors, vous avez un palatin, un vice-palatin, et vous avez des ministères clés, comme la chancelière de Cybèle, qui est un peu la chancelière de l'environnement. De Cybèle, c'est la déesse, comme on l'a vu, qui est un peu le symbole de l'environnement. Vous avez un contrôleur général des finances. On reprend des termes un peu du passé, et ce sont des rôles clés de ce nouvel État, en fait, qui est en train d'émerger, de ce nouveau système politique. En fait. Voilà, et donc, quand on dit Omnis premier, ce n'est pas une référence tant à la royauté ou à la monarchie que nous avons connue, puisque c'est quand même, ils sont rééligibles tous les 8 ans et ils ne peuvent pas être élus, du moins, c'est quasiment impossible. C'est par rapport au fait que, comme on aura un système... Ça y est ? Ah, une musique.
On entend le roi Arthur.
Ah, bien vu. Donc c'est plutôt un système qui se baserait sur l'Église, mais pas en tant que par rapport à la religion, mais en tant que système qui a perduré pendant presque 2000 ans. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé des institutions humaines solides, et là, en l'occurrence, par rapport au Palatinat, c'est un système qui s'adaptera, qui a pour clause aussi de s'adapter à l'environnement qui change aussi. Après, il faut s'adapter.
Est-ce qu'il y en a en ce moment des Palatinats qui y vivent ?
Non, ça n'est stop. Du moins, il y a eu des Palatinats.
Il y a encore un truc en Rémanie, là.
C'est... Oui, en fait, mais le Palatinat tel qu'il m'est défini dans le roman, qui se passe dans quelques années, n'existe pas, en fait. C'est juste un terme qui a été repris. Donc voilà. C'est parce que le mot république, alors après, c'est vrai que là, on a carrément. Là, on parle plutôt des conclusions, mais il y a toute une démonstration qui montre pourquoi, en fait, le mot république ne fait plus. A été obligé d'être banni, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, il y a cette grande spoliation que nous avons évoquée, c'est-à-dire les dettes incommensurables qu'ont laissé les générations précédentes à nos...
Et les prises de pouvoir avec des postes qu'on n'a pas quittés.
Oui, qu'on voit des présidents vivre dans toute la plupart des dictatures qui se sont mises. En fait,
les cumuls de mandats qu'ils font, qui touchent à chaque fois, qui touchent à un truc, qui touchent le pactole.
effectivement, ça fait aussi partie, les cumuls de mandats sont évoqués, mais pour revenir au Palatinat, c'est un nouveau système. On a pris un terme qui était relativement peu usité pour montrer la nouveauté, tout comme omnis, tout en s'ancrant dans le passé. C'est-à-dire que c'est quand même un terme, ce n'est pas un néologisme. C'est un terme qui a été utilisé dans le passé et qui reprend le sens, vous savez, de gouverneur. C'est-à-dire qu'en fait, les futurs responsables de chaque pays européen vont dépendre d'un gouvernement. Alors, vous avez utilisé le mot fédéral, mais ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire, en fait, ils vont dépendre d'un chef de l'État européen, en fait, qui sera le grand.
Mais c'est là où on va, de toute façon, puisque on a déjà, comment il s'appelle, avec son nom, là, ce monsieur-là, que personne connaissait, et puis qui s'est retrouvé.
Ah oui, mais bon. Ça,
comment il s'appelle? Il a un nom.
Oui, j'ai un. Van Rompuy.
Oui, Van Rompuy. En fait. Voilà. Bah, celui-là, c'est qui? C'est pas le grand palatin, celui-là?
Non. Non. Non, parce c'est que quoi? Là, vous êtes. Non. Là, c'est un chef de l'État, carrément, qui est élu et qui représente l'intérêt de l'Europe partout au monde, qui a un gouvernement. Et en fait. Les palatins de chaque pays correspondent plus, si vous voulez, à des gouverneurs, si vous voulez une équivalence aux États-Unis, c'est-à-dire vous êtes responsable d'un grand État, mais vous dépendez, effectivement, ça rejoint l'État fédéral, pour prendre une image qui nous est connue, qui dépend d'un gouvernement, si vous voulez. Alors, on va utiliser le mot fédéral, mais il n'est pas utilisé parce que après, voilà, ah ben, il y en a.
Alors là, j'ai réussi à mettre à l'antenne.
Ah,
c'est déjà reparti.
On a découragé la personne.
Non. Bon, c'était juste pour voir si ça marchait, ça marche. Hein. Si je vois que ça sonne et si j'appuie sur le bouton, bah, vous passez à l'antenne. Donc, mais par contre, si vous raccrochez avant, je peux rien y faire.
C'est très dur de passer à l'antenne, mais après, au bout d'un moment, on s'y fait. Hein. Je rassure.
Non, mais là, ça a sonné, ça a allumé des deux côtés, donc c'est une bonne chose. Ça marche. Hein. En tout cas, merci de nous montrer que ça marche. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que je fais? Je vous le mets, le roi Arthur, alors?
Ah oui.
Allez, on va partir un peu avec le roi Arthur. Allez, vas-y.
Let me rest.
Donc c'était Henri Purcell, musique du roi Arthur. Oui, parce que là on est en pleine Palatinat. Alors dites le site, votre site.
Ah oui, alors donc pour ceux qui sont intéressés par avoir des infos sur la maison d'édition ou même sur moi en tant que Frédéric de Guizan, vous allez sur le site donc des éditions Lyomir, c'est donc www.édition au pluriel mais sans accent, Lyomir, Lyomir.fr. Donc est-ce qu'on répète encore? Oui, donc édition au pluriel avec un S.
Même, en général, même si les gens ils tapent mal. On...
Ouais, avec Lyomir avec un accent sur Google, donc il faut mettre un accent, on trouve tout de suite le site. Par contre, sans accent, non.
Ah bon, non, je vais vous dire ça.
C'est, on tombe sur donc Lyomir, H-E-L-I.
Eh ben même sans accent, on le trouve très bien.
Ah bon, la dernière fois que j'ai fait avec Google, j'arrivais à la cinquième page.
Moins d'accent sur Google et mieux sport. Ah. Alors, édition Lyomir, c'est vous ça?
Bah oui.
Je ne suis pas sûre. Non, je suis sur Lyomir. C'est pas ça. Il a raison, je tombe sur Lyomir. Donc, ce n'est pas du tout ça. Il avait tout à fait raison. Donc, il faut mettre un E. Il faut mettre un E.
Et aller jusqu'au bout. Lyomir. Voilà. Donc, notamment, on devrait avoir.
Et ça c'est quoi une histoire de.
Ah non, vous mettez juste Lyomir là. Juste Lyomir, ça suffit, en fait. Pas besoin de mettre édition, en fait.
Oui, surtout qu'il nous faut éviter de mettre édition.
Parce ouais, voilà, il y en a plein, en fait. Et quand vous mettez pas. Juste Lyomir, je suis tout seul. Du moins, la maison est tout seul. Voilà. Donc moi, les auditeurs verront. Donc il y a une page de présentation de donc il y a une ligne éditoriale, il y a une page de présentation de la maison, de l'auteur, donc des infos complémentaires. Ah, il y a même des pages à lire. Il y a les 20 ou 30 premières pages accessibles donc gratuitement pour les personnes qui souhaitent avoir une idée. C'est dans le catalogue. Donc
c'est pas celui-là. C'est pas possible, même. À Limour.
Oui.
C'est vous?
Mais ouais, je pense qu'on peut cliquer là. Vous êtes passé par le salon du livre, je crois, en fait. Parce que je serai présent au salon du livre. Vous êtes tombé dans une fiche info du salon du livre, c'est ça?
Alors, c'est quoi le. Est-ce que je tape Lyomir simplement?
Ah oui, sans accent, c'est pour ça que je vous disais. Si vous mettez l'accent, vous tombez tout de suite sur.
Ah ben voilà, l'accent, il faut le mettre.
Eh ben bien sûr. Mais sur ça, c'est dans la recherche Google. Mais
le premier E de Lyomir.
Voilà, ça, c'est dans une recherche Google. Autrement, si vous tapez l'adresse, c'est www.édition, donc sans accent, et au pluriel, donc édition, Lyomir.fr.
Voilà. Alors, les éditions Lyomir, la ligne éditoriale, où c'est que j'ai vu ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'écrit avant?
Ah oui, non, c'était bon.
Oui. Défense de l'environnement, révolution verte, théorie de la prochaine révolution. Voilà. Voilà, donc.
Donc il y a un certain nombre de liens.
Il y a un téléphone, il y a tout ça.
C'est ça.
Alors, comme premier ouvrage, pour l'instant, il n'y en a qu'un sur les éditions. Hein.
Oui, effectivement, on a lancé cet ouvrage. Non, j'ai lancé cet ouvrage en septembre 2012. Donc l'idée, c'est la ligne éditoriale, ce serait de pouvoir publier tout type d'ouvrage qui parle de la nature, qui exalte la nature ou qui commence à prévoir tout ce qui est révolution liée à l'environnement, en fait. Après là, en l'occurrence, c'est un roman où il y a de l'aventure, où il y a une conquête de pouvoir, mais ça peut être aussi un essai, ça peut être. Une révolution, c'est pas nécessairement des gens qui vont dans la rue, qui cassent tout et qui disent on veut changer. Donc ça peut être aussi une rupture par rapport à un monde d'avant, d'un point de vue politique. Et notamment là, l'environnement deviendra au cœur de toutes les politiques, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette révolution dans ce roman.
C'est quoi là, ce qu'il y a, ce CO2?
Ah oui, ça c'est...
Les gros pollueurs.
Alors quand j'ai fait le site, il était possible de rajouter des éléments qui nous tenaient à cœur. Et là, c'est la consommation de CO2 par pays. Et on voit que la Chine et l'Italie, donc c'est là la page d'accueil pour ceux qui
sont... La Chine...
Et les États-Unis sont en tête.
Après, on a l'Inde. Mais c'est normal, ils sont très nombreux. Après, on a la Russie.
Ah oui, mais...
On a le Japon...
Il y a peu de pays européens en tête.
Il y a la Germanie. Comment ça se fait qu'ils consomment tant, les Germains?
Ils sont beaucoup, ils sont assez nombreux. Ils sont 80, un peu plus nombreux que nous, 80 millions. Donc,
Il y a la Corée du Sud.
Bon, après, je n'ai pas vérifié au jour le jour la véracité de
Canada, l'Arabie Saoudite.
Le Canada arrive à faire plus que nous, je m'étonne. Tiens, je n'ai même pas fait attention.
L'Iran.
Ah, pardon.
Et nous, on n'est pas dessus.
Ça veut dire qu'on est...
On est en dessous, quoi.
Et je pense que ça me paraît...
Mais on n'est pas beaucoup, les Français. Hein.
Ouais, parce qu'avec le nucléaire, effectivement, on a moins de CO2, je pense.
Puis on n'est pas si nombreux que ça, on se prend vraiment pour le centre du monde, mais bon, il faut nous regarder quand on regarde la Terre. Prenez Google Earth et puis regardez pour chercher la France déjà, comment on est petit. Ouais. Oh, si petit quand même.
Mais grand par les talents, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de talents.
Ça serait bien que tout le monde se pose les mêmes questions en ce qui concerne l'environnement que la France, hein, parce que s'il y en a qu'un qui change, ça ne pourra pas aller.
Oui, justement, comme on l'a évoqué déjà il y a une heure et demie, c'est vrai qu'on parlait de gouvernance mondiale tout à l'heure, c'était aussi un des axes de réflexion de la part du héros, qui, quand il fait le bilan un peu de pourquoi, en fait, malgré de nombreuses entreprises liées à l'écologie, ben, on en était arrivé quand même malgré tout à des impasses. Il y a tout un chapitre qui fait le bilan pour dire effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été faites, comme j'en suis sûr que beaucoup de gens qui doivent nous écouter se disent moi je, dans mon association en tant qu'individu je fais, mais au final il n'y a pas grand chose qui se passe, notamment quand il y a des sommets environnementaux, quand il faut prendre des mesures et faire du concret, et donc le héros fait liste un peu tous les éléments qui ont fait que c'est l'échec. Et le principal responsable, du moins, du réchauffement climatique, c'est, parfois on dit le changement climatique, mais c'est vraiment l'homme qui joue au jour le jour à ce réchauffement climatique. Donc ça, c'est les États aussi qui n'arrivent pas à...
En tous les cas, on aura bien profité. Hein.
Voilà.
On ne sait pas ce que nos enfants auront, mais on en aura bien profité, nous. Hein.
Exactement. Du moins, exactement, je ne sais pas si il faut...
Si,
je
c'est, dire,
c'est ironique, c'est ironique.
C'est ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Voilà. Quand je vois un gamin dans une poussette, je me dis, mon sang, il peut nous regarder. Il y a le film, les enfants nous accuseront, mais c'est clair que qu'est-ce qu'on... Voilà, je veux dire...
Ah tiens, nos enfants nous accuseront, ça m'intéresse, ça, en fait.
C'est un film.
Ah oui, ouais, ça, je prends. Donc, c'est moi qui vais vous poser une question, alors, ça parle de quoi?
Ça parle, je pense que c'est sur l'agriculture, sur la façon dont la terre a été détruite. Et...
Ah, c'est vrai, j'ai peut-être vu au moment. Ouais, exact.
Ouais, il a connu ce film quand même.
Oui, d'un coup, j'ai. Ouais. Mais vous savez, il est quand même 5h du matin, nous n'avons pas encore dormi.
4h50.
Voilà, et donc la fatigue commence.
Et pas
à
d'appel.
Faire.
C'est pas grave.
Si, les personnes raccrochent.
Ils appellent pour voir si on est là. On est là, c'est du direct.
Oui, c'est pas enregistré.
Il n'y a pas de souci, on est là. On est là jusqu'à 6h du matin, avec vous si vous le voulez bien, mais comme vous ne voulez pas, eh ben on est là quand même.
On restera et nous allons parler.
Drôle. C'est amusant, non?
Oui.
Voilà, non. Voilà. Donc, peut-être lire un passage.
Ben oui, on va essayer d'encore en lire un. Ah oui, ça on l'a déjà lu. Bon, il y a un autre. Voici. Alors là, c'est le héros qui, dans un discours, commence à dire qu'il a besoin de tout le monde pour réaliser cette révolution. En fait, donc je vous lis, les succès de la France et de l'Europe de demain sont à portée de main si chaque transformation radicale proposée est mise en œuvre. Mais si une seule est ajournée ou abandonnée, alors c'est la révolution si belle même qui menacera de s'écrouler comme un château de cartes. Les succès de la France et de l'Europe de demain sont à portée de main si chaque Français, chaque Européen participe à cette renaissance. Mais si un seul Français ou un seul Européen manque à l'appel, alors c'est la révolution même qui peut échouer. Aussi, demain, chacun d'entre nous ne doit plus se demander que peut faire pour moi la révolution, le gouvernement, le pays, mes caisses d'allocation, etc. Que puis-je en attendre? Mais plutôt, que puis-je faire pour les servir au mieux? Qu'ai-je fait exactement aujourd'hui pour apporter une contribution significative à leur succès? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi l'ouvrier qui travaille et produit avec tes mains et tes outils. Toi l'agriculteur qui sème et récolte. Toi le patron qui emploie et dirige. Toi le professeur qui transmet le savoir et apprend à penser le monde. Toi l'étudiant qui apprend et devient grand. Toi l'infirmière qui soigne et sauve. Toi le chômeur qui enquête incessante d'un travail nouveau. Toi le législateur et uniquement législateur qui fait les lois de demain. Oui, c'est sur vous tous, mes amis, que nos enfants comptent à présent. Ne les décevons pas. Ne les décevons pas encore, nous n'avons plus droit à l'erreur. La confiance d'aujourd'hui doit demeurer jusqu'aux prochaines élections et non point vaciller dès demain au moindre courant d'air ou incompréhension momentanée. Une démocratie claire en faveur de la révolution civile a été validée lors des dernières élections. Cette démocratie ne saurait être menacée par des tours de passe-passe démagopoliticiens ni par des intérêts particuliers.
Alors il y a un message là, vous voyez, il y a marqué bonjour, vous arrivez à le lire ?
Bonjour à vous, cela fait très Star Wars comme histoire, mais assurément très intéressant à lire, merci Bise. Ah, merci Luc, c'est Luc je crois.
Donc c'est un internaute, il était 4h46 je crois. Donc, lui, donc,
fils de l'empereur.
Alors bah oui, ça fait très Star Wars quand même. Hein.
Exactement, ah oui avec les premières pages, il a dû lire les premières pages en fait je pense. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas tout lu, mais dans les premières pages, on voit comment sont habillés les cybellistes. Et en fait, ils ont pour se reconnaître. Donc, c'est alors on rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent que les cybellistes, c'est le mouvement. Ah, il y a un appel téléphonique. Alors, on reprendra juste après.
Alors, il y a quelqu'un peut-être à l'antenne.
Oui.
En tous les cas, ça fait du bruit.
Bonsoir, le slam.
Bonsoir.
Je suis l'écrivain qui a écrit sur le message live.
Ah bah c'est gentil.
Ah oui,
en bah,
direct.
Bah ça prouve au moins que ça remarche, parce que je me demandais si ça marchait, les messages live. Donc, est-ce que tu as lu un peu, ou est-ce que c'est ce que tu entends ?
C'est ce que j'ai entendu par rapport à vos différentes petites...
Interventions ?
Intervention par rapport à ce que vous avez lu, qui me fait penser un petit peu hein, par rapport à...
Ah mais c'est bien vu, parce que... Mais en fait, il y a un gros clin d'œil à Star Wars. En plus, alors j'en ai pas du tout parlé. Pour le coup, là, alors je me suis peut-être trahi par des signaux que vous avez très bien compris. C'est ouais. Que les héros cybellistes, donc c'est le parti minoritaire qui essaie de reconquérir le pouvoir, ont en général une tresse sur le côté droit. Un peu comme le. Donc je sais pas si vous vous souvenez dans Star Wars, dans la série 1, 2, 3, les apprentis Jedi ont leur petite tresse sur le côté. Mais c'est un petit clin d'œil rapide. Voilà.
Ouais, mais même déjà par rapport. Je vais avoir un petit peu de bruit, mais c'est vrai.
Oui, mais.
Par rapport à Palpatine, etc., ça m'a fait tout de suite tilter à.
Ah oui, non, c'est... Ah oui, c'était non, bah... Palatina, en fait, mais...
Ouais, Palatine, mais par rapport à Palpatine, etc.
Ah ouais, tu n'avais pas vu ça, ouais. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça, mais maintenant, comme quoi, hein.
Y a mais c'est quoi dans Star Wars, Palpatine, non ?
Palpatine, en fait, c'est... Excusez-moi, 30 secondes. Je travaille en même temps. Hop là.
On se demande, on essaie de deviner ce que c'est comme travail. Faut pas le dire, on va chercher.
Non, vous ne trouverez pas. C'est pas possible.
Si, on va trouver, on va trouver.
Vous avez trouvé ? Bah, si vous trouvez, bah, je vous amène un petit gâteau.
Ah bah alors vous êtes boulanger.
Pas du tout. non, pas du tout.
Livre.
Non, pour moi, il y a une machine qui sort des choses.
Ah non, non plus.
Bon, bah, je sais pas.
Non,
si
non,
ça refait du bruit, on va tous tendre l'oreille.
Vous ne trouverez pas, c'est impossible. Ah donc, oui, non, mais Palpatine, oui, ça m'a fait tout de suite flipper par rapport à Star Wars. Et franchement, les différents passages que vous avez lus, même déjà le dernier que vous venez de lire, là, déjà.
Ah oui, bah, moi, c'était une série que j'avais beaucoup appréciée, mais comme quoi, là, pour le coup, parfois, j'ai des influences très claires en me disant, tiens, je pense à ça. J'ai très peu pensé à la Guerre des Étoiles, si ce n'est dans la coupe de cheveux.
Mais c'était ouais, un petit bah, ouais. Voilà. Vous voyez comme quoi le cheminement des fois c'est bizarre.
Oui, et puis en fait, beau retour en tout cas. Beau retour. Non, parce que c'est vrai que je me dis, tiens, j'ai pas parlé de la façon dont ils sont habillés. Mais c'est vrai que je me suis trahi avec les autres éléments, mais j'imaginais pas qu'on pouvait faire un tel lien. Donc, bravo.
Enfin, la vraie révolution n'est pas pour tout de suite, hein, je vous rassure.
Moi non plus, moi. J'y crois pas.
Mais c'est un roman, hein, donc après...
Non, mais c'est sûr. Non, mais tout à l'heure, vous parliez avec Jean, j'ai entendu Jean qui s'exprimait tout à l'heure.
Ah oui.
Mais la révolution n'est pas pour tout de suite.
Oui.
Les gens ne sont pas prêts.
Ah, vous avez été très motivé, là, parce que Jean est passé il y a au moins 2 heures, non ?
Non, puis c'est ce que je disais tout à l'heure aussi... Bon, quand il y a des manifs, on voit quand même les gens se bouger un peu, sortir dans la rue. Mais je vois pas, le peuple français. Enfin, comme les révolutions de 89 ou la Commune, c'est plus du tout la même population qu'on a en France.
Non, c'est plus du tout la même chose.
Et voilà, je veux dire, il faut ouvrir les yeux et savoir que de toute façon, ça sera chacun pour soi et bah, ça sera plus un peuple.
Le problème, c'est que les gens sont de plus en plus individualistes.
Bah oui.
Là où est le problème, c'est que pour fédérer, bah, faut vraiment le méga truc qui fait que, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas, quoi.
Effectivement, mais en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la révolution. En l'occurrence, là, c'est un roman qui est précédé d'une période trop.
Alors, si tu appelles la révolution avec 5 personnes,
non, en fait,
il faut que le peuple suive quand même.
Le roman donne.
À l'heure actuelle, vous avez des révolutions intellectuelles qui se font,
Ou économiques.
Il y en a beaucoup, mais ça ne touche pas la plupart des gens.
Oui, absolument.
Donc, même moi, il y a des fois, ça me passe au-dessus de la tête. Oui. Franchement, il y a des trucs, voilà quoi. Ça pourrait être une révolution. Aussi bien les révolutions techniques qu'informatiques.
On parle de la révolution industrielle aussi.
Exactement.
Donc, il y a des trucs qui nous passent au-dessus de la tête. Maintenant, c'est sûr que si on va commencer à toucher à notre gagne-pain, c'est-à-dire le travail, et c'est-à-dire qu'il n'y en a déjà pas beaucoup, là, ça pourrait peut-être commencer. Mais je pense que les gens ne sont pas prêts.
Voilà, mais en fait, pour une révolution, en fait, c'est défini à un moment, c'est une rupture radicale par rapport au monde d'avant. Alors après, comment elle se fait? Soit elle se fait de façon pacifique, à ce moment, il y a un gouvernement élu démocratiquement qui peut le faire, parce qu'il arrive à anticiper. Oui. Admettons demain, tiens, le gouvernement actuel se dit, voilà, on se veut révolutionnaire, maintenant on va essayer de mettre en place un certain nombre de changements radicaux de la société. Il n'y aura pas eu des gens dans la rue qui auront précédé. Mais cela dit, les révolutions se font dans la douleur.
Il y aura des manifs.
Tout dépend si c'est bien expliqué, après qu'il y a eu toute une...
Regarde le truc des retraites. Tout le monde était dans la rue.
Non, mais après, c'est un projet de civilisation, de société. Mais après, c'est vrai que souvent, les révolutions naissent un peu de façon douloureuse, dans la mesure où on a attendu l'extrême limite. Et tout d'un coup, c'est tout le monde qui descend dans la rue, qui ne savent pas vraiment parfois ce qu'ils veulent, mais ils veulent contester ce qui est en place, parce qu'ils ont échoué à établir un certain nombre de... Comme vous avez dit, si on touche à mon travail, ben, ça ira plus. Ben, voilà, ils ont estimé que la coupe était pleine. Mais en fait, le roman dit, ben, justement, le jour où ça viendra, et si on n'a rien fait d'ici là, ben, il faut pas se tromper de révolution en ce moment-là, il faut quand même garder des fondamentaux, et c'est pour ça qu'il y a une esquisse de